Alléluia, Alléluia, mes bien-aimés, nous allons poursuivre, cet enseignement et cette prière sur la possession des portes, des saisons, notamment la saison de l'hiver en ce mois de décembre. Nous voyons que l'hiver est un mois qui couvre, on va dire grosso modo, 4 mois. Par de mi-décembre, s'achève mi-mars, à peu près, oui, et elle est donc à cheval sur 4 mois. Elle va prendre les caractéristiques de cette période-là, dans le souci de pouvoir véritablement prier convenablement pour saisir toute cette saison. Voilà. Nous allons parcourir, nous allons essayer de voir les choses un peu de plus près sur chaque mois, l'impact, l'incidence spirituelle que ça nous révèle pour pouvoir faire des prières qui soient ferventes, faire des prières qui soient efficaces, faire des prières qui s'appuient sur des choses concrètes. N'oublions pas que nous sommes en train d'asseoir prophétiquement quelque chose. Quand on dit on saisit les portes de saison, c'est qu'on installe, on instaure, on fixe des proclamations dans nos vies sur cette période-là. Et on ne peut pas fixer au hasard n'importe quoi. On doit pouvoir le faire sur la quintessence des choses qui se font sur le plan naturel comme sur le plan spirituel. Les choses qui sont prévues de par la création elle-même, de par les plans de Dieu, les choses qui sont prévues, les choses qui sont programmées ou pas, ou les choses qui sont posées par par les hommes, par les systèmes, par par Babylone, par ce qui nous entoure et qui, de près ou de loin, influence nos vies. C'est sur ça que nous devons nous appuyer pour pouvoir faire vraiment des prières ferventes. Et c'est dans ce cadre que j'ai pris le temps d'interroger le Saint-Esprit, de me conduire dans cette étude de cette période-là pour pouvoir saisir ce que nous allons ensemble voir maintenant, nous attarder dessus maintenant, d'un mois sur un autre. J'ai envie de dire que dans ma quête de l'éternel, la face de l'éternel, dans ma soif de la connaissance de sa parole, dans ma soif même de le chercher, ce Saint-Esprit de Dieu m'a donné une conduite de travail à faire et l'éternel m'a promis que chaque fois que j'aborderai cette méthode de travail avec lui, il se révélerait à moi et ça, je ne suis pas déçue parce que vraiment depuis que j'évolue avec le Saint-Esprit de cette façon, je suis éclairée, je suis guidée, je reçois des révélations et ça me permet de comprendre, ça me permet de voir, d'avoir la clarté de ce que Dieu me révèle, de ce que la parole de Dieu me révèle, de ce que l'Esprit de Dieu veut que je saisisse. Et c'est ça que j'ai envie de partager. Je ne pense pas que ce soit exhaustif, que ce soit la vérité. Non, je vous partage ce que j'ai reçu de Dieu, la façon dont je comprends la révélation de la parole de Dieu, les instructions de Dieu pour la saison et je partage avec vous. La parole de Dieu nous dit, il faut considérer ce qui nous est révélé afin que vous également vous puissiez utiliser ou exploiter ces révélations-là dans votre propre méditation, dans votre propre quête, pour avoir les précisions que l'Esprit de Dieu met en vous dans la saison pour enrichir votre vie spirituelle, votre marche spirituelle. Voilà le but qui est fait. Moi, j'ai fait ce travail pour prier personnellement, moi, pour cette saison, pour saisir en fonction de ce que je comprenais, ce que l'Esprit de Dieu me révélait. Et c'est ça que j'ai envie de partager, je le disais donc. Nous allons regarder sur le mois de décembre, sur le mois de janvier, sur le mois de février et un peu sur le mois de mars, ce qui, sur le plan naturel, sur le plan spirituel, apparaît comme étant des points d'importance, des points qui ont une incidence sur nos vies, des choses sur lesquelles nous devons nous arrêter, nous attarder et agir convenablement selon la parole de Dieu, anticiper pour pouvoir limiter ou nous opposer ou agir au nom de Jésus pour pouvoir limiter l'œuvre du malin sur nos vies. Tout cela ou que nous devons sceller dans le sang de Jésus pour pouvoir rentrer dans la bénédiction, rentrer dans la jouissance, rentrer dans la possession véritable de cette action, de cette programmation sur nos vies. Pour le mois de décembre, donc, le mois de décembre, c'est le 12e mois du calendrier chrétien, ce qu'on appelle au calendrier grégorien. C'est le 12e mois. Mais c'est aussi cette période, ça correspond au 10e mois du calendrier juif. C'est important que nous fassions ce parallèle parce que ce que nous sommes en train de faire, c'est un acte spirituel. Et un acte spirituel chrétien doit s'accorder avec la pensée de Dieu par rapport au point. Le calendrier grégorien a été fait par les Romains. Et le catholicisme étant basé sur Rome a pris ce calendrier parce que quelque part politiquement aussi, le calendrier civil s'accorde un peu avec cet alignement de mois. Ils ont des raisons pour ça. Mais si nous voulons rester dans la quintessence de la portée spirituelle, véritable, nous devons nous projeter sur le calendrier juif, le calendrier hébraïque, qui est un calendrier lunaire, qui lui démarre au mois de mars, comme premier mois de l'année, dans le mois de la Pâque, comme premier mois de l'année, et qui donc nous amène ce mois, ce 10e mois, ce mois de décembre qui correspond au 10e mois de ce calendrier. Et quand j'allais regarder pour étudier, rechercher dans les écrits qui existent, la Bible, l'impact ou l'importance de ces mois, des événements qui se passent ce mois-là, sur le plan spirituel comme sur le plan naturel, je me suis rendu compte d'une chose qui m'a semblé importante à prendre en compte dans cette possession de porte. C'est par rapport au 10e mois de l'année juive. C'est le mois de Tevet. Et en lisant les écrits, les textes, les commentaires de hébraïque, je me suis rendu compte que sur ce mois de Tevet, il y a ce que l'on appelle le jeûne du 10 Tevet, le jeûne que l'on fait sur le mois de décembre, qui est une prescription en cours dans la foi juive, dans le peuple juif, jusqu'aujourd'hui et qui se rapporte à quelque chose de particulier, qui se rapporte à une recommandation que l'Éternel donne au peuple par rapport à la prise de Jérusalem par Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Et des événements qui ont conduit à la destruction du temple et à l'exil du peuple. Nous savons que le temple qui a été détruit à cette période-là n'a plus jamais été reconstruit jusqu'aujourd'hui. Et l'exil du peuple juif a se défait. Cela m'a semblé important parce que ça révèle une caractéristique qui nous ramène jusqu'à Zacharie et où une promesse de l'Éternel est importante. Nous allons, pour étayer ça, nous allons lire trois passages. Dans le livre de Rois, Rois 2, dans le livre de Deux Rois, en son chapitre 25, nous allons lire les versets 1 et suivant. Qui campe un peu le départ de la prise de Jérusalem par Nebuchadnezzar. La neuvième année du règne de Sédécias, le dixième jour du dixième mois, vous voyez donc que ça correspond bien à ce mois de Tevet, le dixième jour du dixième mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée contre Jérusalem. Il campa devant elle et éleva des retranchements tout autour de la ville. La ville fut assiégée jusqu'à la 11e année du roi Sédécias. C'est-à-dire la ville fut assiégée pendant 2 ans. Et le 9e jour du mois, la famine était forte dans la ville. Et il n'y avait pas de pain pour le peuple du pays. Alors, la brèche fut faite à la ville et tous les gens de guerre s'enfuient de nuit par le chemin de la porte entre deux murs près du jardin du roi, pendant que les Chaldéens environnaient la ville. Les fuyards prirent le chemin de la plaine. Mais l'armée des Chaldéens poursuivit le roi et l'atteignit dans les plaines de Jéricho. Et toute son armée se dispersa loin de lui. Ils saisirent le roi et le firent monter vers le roi de Babylone, à Ribla. Et l'on prononça contre lui une sentence. Les fils de Sédécias furent égorgés en sa présence, c'est-à-dire en présence de leur père, le roi Sédécias. Puis on créva les yeux à Sédécias, on le lia avec des chaînes d'airain et on le mena à Babylone. Voilà. C'est une histoire terrible, ça. Mais c'est une histoire qui s'est passée. Dans ce même temps que cette histoire s'est déroulée, nous allons revenir dessus pour voir un peu les caractéristiques des actions précises que cette histoire nous révèle. Jérémie, nous sommes dans la période du roi Jérémie, du prophète Jérémie, pardon, du prophète Ézéchiel aussi. Nous sommes dans cette période où certains avaient même déjà été attrapés, comme Daniel et ses 4 amis, parmi les jeunes qui avaient été attrapés déjà, pour amener en exil à Babylone. Nous sommes dans cette période-là. Et nous savons, pour ceux qui lisent la Bible, à quoi consistait le ministère de Jérémie particulièrement. Nous savons que c'était un ministère prophétique qui avertissait le peuple des désirs de père, qui les mettait en garde contre les abus de rébellion, les abus de désordre qui régnaient à Jérusalem à cette époque. Jérémie avait déjà averti le peuple du temps de Sédécias, du roi Sédécias. Jérémie avait déjà averti le peuple plusieurs fois de la colère de l'Éternel qui allait s'abattre sur le peuple et Jérusalem. Il les avait déjà avertis du risque de la destruction du temple et de l'exil du peuple. Jérémie avait déjà prophétisé cela, mais personne ne l'écoutait. Le roi, comme tous les autres, tout le monde était dans un grand désordre qui régnait, une grande désobéissance, et même les messagers de Dieu n'étaient plus écoutés. Et si les messagers de Dieu ne sont plus écoutés, ça veut dire que Dieu n'est plus écouté par le peuple. Jusqu'à ce que l'Éternel mette en exécution la punition qu'il avait prévue pour le peuple à cet effet-là. Dans le même temps, l'Éternel a pris la peine de montrer un songe à Ézéchiel, parce qu'il avait établi Ézéchiel comme sentinelle de ce peuple et lui avait dit, Ézéchiel, ce que je te révèle est tout, tant que tu le déclareras au peuple et qu'ils ne le fassent pas, leur sang ne retombera pas sur toi. Mais si je te montre quelque chose et que toi tu ne le dis pas au peuple, je vais les punir et leur sang retombera sur toi. Donc Ézéchiel était une sentinelle particulière. Les ministères, les gens sont. Les ministères peuvent être identiques. On appelle Jérémie prophète, on appelle Daniel prophète, on appelle Ézéchiel prophète. Mais le contenu de la mission de chaque prophète, ce n'est pas identique. Parce que Dieu a des appels différents pour les uns et les autres. Les missions qu'il confie aux uns et les autres sont différentes. À Ézéchiel, dont il y a ce même jour, il lui a fait parler en songe. Et pour lui faire voir d'avance tout ce qui allait se passer, tout ce qu'il avait programmé qu'il se passerait. C'était pour qu'il avertisse le peuple, pour que le peuple se repente au moins, pour que le peuple prenne conscience de ses erreurs, pour que le peuple revienne à lui. Et ce qui est important de noter dans ce passage, c'est Ézéchiel 24, dans les versets 1 et 2, c'est que la 9e année, le 10e jour du 10e mois, vous voyez que ça correspond exactement à ce qu'on a lu tout à l'heure. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, mets par écrit la date de ce jour-ci. Le roi de Babylone s'approche de Jérusalem en ce jour même. Et effectivement, le roi de Babylone, avec toute son armée, était en train d'approcher pour assiéger la ville de Jérusalem. Et il prend la peine, on ne va pas le lire, il prend la peine, dans les versets 3 et suivants, il y propose une parabole à la famille des rebelles et dit-leur, ainsi parle l'Éternel. L'Éternel place, il place sa chaudière et verse-y de l'eau. C'est-à-dire, je passe à sa sanction. L'Éternel est en train de passer à l'exécution de la sanction qu'il avait proclamée. Par rapport à votre tétutesse, par rapport à votre rébellion, par rapport à votre refus d'obéissance, par rapport à votre refus d'observance de mes lois et de mes règles. Ce qui est encore intéressant, c'est que au verset 13, à partir du verset 13, l'Éternel dit, le crime est dans la souillure parce que j'ai voulu te purifier et que tu n'es pas devenu pur. Tu ne seras plus purifié de ta souillure jusqu'à ce que j'ai assouvi sur toi ma fureur. Écoutez ça, c'est vraiment profond. C'est-à-dire l'Éternel est tellement en colère par rapport à son peuple qu'il refuse même la repentance. Il dit, j'ai voulu le faire, tu ne l'as pas fait. Et maintenant, tu ne le seras plus jusqu'à ce que toute ma colère se soit assoudée sur toi, jusqu'à que tout ce que j'avais programmé qui vont être faits, ce sera fait. Oh, mes frères et mes sœurs, que cela ne nous arrive pas. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Cela arrivera et je l'exécuterai. Je ne reculerai pas et je n'aurai ni pitié ni repentir. On te jugera selon ta conduite et selon tes actions, dit l'Éternel des armées. Ça veut dire la sanction, cette programmation est faite, elle est entérinée, Ézéchiel, tu peux le dire au peuple. Je commence l'application de ça aujourd'hui, j'irai jusqu'au bout. Je ne reviens pas dessus. Il finit parce qu'il est Dieu. Dans son verset, à partir B du verset 14, il dit, on te jugera selon ta conduite et selon tes actions, dit l'Éternel des armées. Ça veut dire que les uns par rapport aux autres, la sanction est générale parce que tout le peuple était dans cette rébellion. Mais les uns par rapport aux autres, les actes que vous poserez par la suite, ceux qui reviendront à moi, ceux qui se repentiront, ceux qui changeront la manière de faire, etc. Je jugerai à ce moment-là, en fonction de cette conduite. Dans le même cadre, il est important de noter un troisième passage. Cette sanction-là, libérée sur le peuple juif, rebelle, le temple a été détruit, le peuple a été mis en exil, à l'image de son roi, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Il y a eu la chute du gouvernement de Jérusalem, on peut dire ça comme ça. Et dans l'opprobre, et dans l'esclavage, sous les chaînes, l'autorité du peuple a été amenée en chaînée. Ses enfants ont été sauvagement assassinés sous ses yeux. Et il a été amené presque comme un esclave lié de chaînes dans les prisons de Nebuchadnezzar. Cette sanction, cet état d'exil a duré, a perduré jusqu'au temps de Zacharie comme prophète. Et quelque chose de particulier apparaît ici. Dans Zacharie 8, à son verset 19, nous allons le lire aussi. Nous constatons, lorsque l'on lit la totalité de vous pouvez le lire, lire la totalité de Zacharie 8, nous nous rendons compte que l'Éternel est encore en train de reprocher les mêmes choses à ce peuple en exil. Il est en train de leur reprocher les mêmes choses. Il les invite encore à écouter les prophètes. Il voit toujours que le peuple, malgré tout ça, continue à être rebelle à ses instructions, à ne pas tendre l'oreille pour écouter les instructions de Dieu, à ne pas écouter les messagers qu'il envoie, à ne pas obéir à ses instructions. Mais il leur dit quelque chose de particulier à ce moment-là. Il dit, ainsi je reviens en arrière et j'ai résolu en ces jours, nous sommes au verset 15 là, j'ai résolu en ces jours de faire du bien à Jérusalem et à la maison de Juda. Ne craignez pas. L'Éternel, ici, veut apporter une nouvelle chose, veut faire rentrer Jérusalem, le peuple de Jérusalem dans un nouveau départ, veut établir les choses de façon différente avec eux. Et il dit, dans d'autres temps, oui, votre travail n'était pas productif, tout était bouché, j'avais fermé toutes les possibilités. Mais cette fois-ci, j'ai envie de faire autrement. Voici ce que vous devez faire. Que chacun dise la vérité à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Que nul en son cœur ne pense mal contre son prochain. Et n'aimez pas les faux serments, car ce sont là toutes ces choses que moi je hais. Amen. Et il leur dit encore, ainsi parle l'Éternel des armées. Le jeûne du quatrième mois, le jeûne du cinquième mois, le jeûne du septième mois et le jeûne du dixième mois se changeront pour la maison de Juda en jour d'allégresse et de joie, en fête de réjouissance. Mais aimez la vérité et la paix.